Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Devin Bwinga.
Bonjour et merci de choisir Radio Capi pour vous informer. L'actualité de ce jour, toujours dominée par la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et à la recherche des pistes de solutions. Action citoyenne de lutte contre les discours de haine invite les gouvernements congolais et rwandais à la proactivité pour décourager les recours aux discours de haine, à la désinformation et à la xénophobie comme stratégie de guerre. Nous dirons aussi un mot sur ce coup de pouce du FAO à 5 associations paysannes de Yangambi. Le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture leur a remis 5 unités de forte transformation agricole en présence de plusieurs personnalités de la province de la Tchopo. Enfin, notre invité est le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Actualité oblige, Charles Bamana nous parle de la crise sécuritaire dans l'est du pays et surtout lance un appel aux Congolais afin de se prendre en charge pour gagner cette guerre. Mais d'abord cette information, le commandant de la 12e brigade des forces armées de la République démocratique du Congo tué lors des combats entre les FRDC et les rebelles du M23 à Mukwija, territoire de Calais au sud Kivu. Rugabisha Alexis, car c'est de lui qu'il s'agit, est donc mort au cours de ces affrontements. Et dans un communiqué publié hier dimanche 2 février 2025, le porte-parole des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, a salué la bravoure du colonel Rugabisha, qualifiant sa mort de perte inestimable pour l'armée et pour la nation congolaise. Place à présent à cette position de l'ONG Action citoyenne de lutte contre les discours de haine en RDC, au sujet toujours de cette guerre du M23 soutenue par le Rwanda à Goma. ACLDH s'inquiète de l'accroissement des cycles de violence, du nombre incalculable des morts et de l'immense afflux des déplacés. En tout cas, dans son communiqué publié samedi à Kinshasa, cette structure condamne le recours au discours incitatif à la haine, à la désinformation et à la xénophobie comme stratégie de guerre, tant en RDC qu'au Rwanda. C'est pourquoi elle invite les deux gouvernements à la proactivité pour décourager ces comportements et à trouver une solution à cette crise sécuritaire. D'autres détails dans ce papier de Grace Hamzati rendu par Jules Mister Bilanda.
La CLDH dit regretter les manques de volonté politique pour la désescalade du conflit tant du côté du gouvernement de la RDC que celui du Rwanda en capitalisant les processus de Luanda et de Nairobi afin d'aboutir à la paix par la voie des négociations. L'ONG recommande ainsi au président Félix Tshisekedi et Paul Kagame de renouer avec la voie des sorties des crises à travers les différents mécanismes conjoints mis en place. Elle formule le vœu de voir les conseils des sécurité de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et les organisations sous-régionales intensifier leurs efforts visant à ramener ces deux pays à la table des négociations autour de la paix en réussissant à converger les revendications des uns et des autres à des résolutions pacifistes, consensuelles et respectueuses de l'intégrité territoriale de chaque pays. La CLDH exhorte la MONUSCO à appuyer l'organisation en RDC d'un forum multi-acteurs incluant les organisations de la société civile, les acteurs politiques et étatiques, ainsi que toutes les forces vives de la nation.
On poursuit ce journal avec cette réaction du ministre de la Communication et Médias en rapport toujours avec la guerre. Nous comptons sur tous les journalistes congolais pour barrer la route à toute forme de manipulation et de désinformation sur cette guerre qui est aussi médiatique. C'est en ces termes que Patrick Muyaya a appelé tous les Congolais à se mobiliser pour lutter en vue de la reconquête de l'espace occupé actuellement par les Rwandais et leurs supplétifs du M23. C'était lors du briefing de presse qu'il a co-animé samedi dernier avec son collègue de la santé publique Roger Kamba. Le ministre de la Communication et Médias a en outre promis de revenir sur le mécanisme que le gouvernement mettra en place pour que chaque Congolais, avec ce qu'il a, puisse contribuer à la restauration de l'intégrité du territoire national. Les propos de Patrick Muyaya sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
les journalistes qui êtes déjà pleinement mobilisés. On va travailler avec vous pour être sûr que nous passons les bons messages. Non seulement les journalistes, mais nous avons aussi des influenceurs, tous ces compatriotes qui se battent derrière leur clavier pour s'assurer que notre intégrité territoriale est préservée. Nous allons travailler avec les communicateurs, nous allons travailler avec tout le monde, parce que ça, c'est une guerre qui concerne tout les Congolais. Il y a des efforts qui seront faits. On reviendra avec les détails que nous recevrons du ministère des Budgets et des Finances sur ce qui sera prélevé comme effort de guerre. Et nous allons aussi revenir sur le mécanisme que nous mettrons en place pour que chaque Congolais, avec ce qu'il a, puisse contribuer pour que nous puissions, derrière le président de la République, être prêts à restaurer l'intégrité de notre territoire. Je rappelle que nous avons le front militaire, nous avons le front diplomatique, nous avons le front économique, le front judiciaire, le front spirituel, et les fronts de la santé que le ministre a rajouté. Mais je vais beaucoup insister sur le front médiatique, parce que là aussi, nous faisons face à une guerre informationnelle. Vous savez qu'en face de nous, nous avons l'empire du mensonge qui opère avec des supplétifs dans les domaines qui sont les nôtres. Nous comptons sur vous pour barrer la route à toute forme de manipulation et des désinformations.
Autre aspect de cette guerre, les rebelles du M23 avec leurs alliés du Rwanda ciblent les entreprises et établissements publics de l'État à Goma, au Nord Kivu, selon des sources locales. Elles attestent aussi que ces éléments du M23 ont pillé samedi le bureau du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Et sur place, ils auraient emporté une camionnette et le coffre-fort. Parmi leurs bulletins, on compte aussi deux véhicules Land Cruiser pris à la Caisse nationale de sécurité sociale. Choqués, des responsables des entreprises publiques dénoncent ce comportement et avouent vivre en cachette. On écoute l'un d'entre eux, joint par Grace Hamzati.
Nous avons assisté à un pillage au niveau du bureau provincial du Fonds de promotion de l'industrie où les camionnettes de M23 sont entrées dans l'enceinte du FPI. Ils ont cassé la grande porte, ils sont montés au-dessus, ils ont cassé la porte de la caisse, ils ont emporté avec eux les coffres forts pour une destination inconnue. À l'intérieur, il y avait 7 500 $ et 4 millions de francs. L'argent qui a été pour une collation des agents ou une prime des agents. Cet argent est parti. Également, la camionnette du FPI a été emportée. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a amenée. Nous dénonçons ces comportements des soi-disant libérateurs. Aujourd'hui, beaucoup de responsables des entreprises publiques ils se sont cachés. Ils ne savent même pas se tenir ou même pas sortir de leur cachette de peur qu'ils soient tués lâchement comme on a tué plusieurs. Voilà pourquoi nous dénonçons, nous lançons ces cris d'alarme que la communauté internationale et celle nationale puissent venir en aide au niveau des Goma. À ce qui se passe, les mots que nous pouvons dire, c'est du carnage.
La CENI, de son côté, exige la libération de ses agents du secrétariat exécutif provincial du Nord Kivu, pris en otage par les éléments de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Dans un communiqué du 30 janvier dernier, elle signale que ces éléments ont aussi pillé les installations de son bureau provincial du Nord Kivu. Là aussi, ils ont emporté des véhicules et motos neuves et usagées, ainsi que des kits électoraux stockés à Goma. Direction vers le Rwanda. Ainsi condamne-t-elle ces actes qu'elle porte à la connaissance de l'opinion entière. Et puis le ciel s'éclaircit quand même sur Goma. La vie reprend petit à petit son cours normal dans cette ville du Nord Kivu après plusieurs jours de paralysie à la suite des combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC. Selon des sources concordantes, ce week-end, par exemple, quelques détonations d'armes sporadiques ont été entendues seulement dans la partie nord de la ville où il y aurait encore quelques poches de résistance. Mais à quoi ressemble la ville de Goma ce jour? John Tsongo, un acteur local, a fait le tour de la ville hier dimanche et nous décrit son constat au téléphone de Grace Hamzati.
J'ai essayé de relier quand même le centre-ville. Je suis passé par l'aéroport. Le chemin était en tout cas calme, fréquenté. Il y a aussi un retour de la circulation des engins, des locomotives de casque bleu. Au centre-ville Birere, il y a quand même les vendeuses et les vendeurs des vivres qui avaient pris le courage de rouvrir, mais les magasins, ce n'était pas le cas. La ville était quand même timide. Il y a observance un peu partout, des parts et d'autres de la chaussée, soit des douilles des cartouches, soit des cartouches ou des effets militaires abandonnés, ça et là. La journée du samedi a été par exemple marquée par des travaux communautaires d'Isalongo. La population s'est mobilisée pour essayer de ratisser la ville qui était déjà sale. Au centre-ville, on a constaté par exemple beaucoup de traces de balles, résultat, n'est-ce pas, du pillage. Le mouvement est aussi pareil. Au centre-ville, il y a toujours des effets militaires qui sont observés. Il y a aussi certains opérateurs économiques qui commencent à réparer un peu tout ce qui a été saccagé, les portes métalliques qui ont été saccagées. Alors, c'est dimanche, les églises, certaines bien sûr, auraient pris et le mouvement est redevenu plus ou moins normal. Et nous espérons que ça sera pareil le lundi.
Autre titre de ce journal, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture vole au secours de 5 associations paysannes de Yangabi. Nous sommes dans la province de la Tchopo. FAO leur a remis 5 unités de transformation agricole. La cérémonie officielle s'est déroulée la semaine dernière sur place à Yangabi en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre provinciale en charge de l'agriculture, Bijou Koy, l'autorité administrative locale ainsi que des leaders de la société civile. Cet appui du FAO s'inscrit dans le cadre du projet formation, recherche et environnement dans la Tchopo Forest Food, lequel est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le CIFOR ICRAF. Des explications avec Jacques Mokonkole.
Cette dotation du FAO répond à un réel défi auquel ces paysans étaient confrontés au sujet de la transformation de leurs récoltes, en l'occurrence les maïs et les maniocs. Ces paysans ont adhéré aux bonnes pratiques agricoles vulgarisées par le CIFOR ICRAF. Ils enregistrent actuellement des récoltes à meilleur rendement que jadis. Cependant, ils sont obligés de se rendre à Kisangani pour faire moudre leurs produits, faute d'unité de transformation à Yangambi. Théodore Eoli, président de l'association paysanne agricole.
Depuis des nuits de temps, on avait toujours des énormes difficultés pour transformer nos produits agricoles par manque de meilleures unités de transformation. Nous vous rassurons que nous allons bien gérer ces unités de transformation.
Ces associations comptent plus de 200 paysans et cultivent 500 hectares de champs agricoles par an. Clément Jachopoko, expert de CIFOR, espère que ce matériel aura un impact dans leur vie.
Nous sommes convaincus que ces unités de transformation mixtes vont permettre aux agriculteurs du paysage de Yangambi d'améliorer leurs revenus et stimuler encore davantage la production agricole qui est gage de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Pour Serge Sabi de la FAO, des formations notamment sur l'utilisation de ces unités de transformation et leur maintenance sont prévues dans les prochains jours en vue de garantir son appropriation. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons de cette rocambolesque affaire de présumé détournement de 3 millions de dollars américains destinés aux investissements au Kasaï oriental et qui divise l'Assemblée provinciale. Le président de la commission parlementaire déployée au gouvernorat de province pour faire le contrôle a été limogé à la tête de cette commission 4 jours avant la fin de cette opération de contrôle. Et le député provincial Kizito Mukendi délie sa langue. Explication Esther Ndalafina.
Le député provincial Kizito Mukendi n'a pas apprécié son limogeage de la commission de contrôle parlementaire affectée au gouvernorat de province. Cette commission est composée du président, du vice-président, d'un rapporteur et de quelques membres. Dans un audio qui circule sur la toile depuis la semaine dernière, le député provincial Kizito Mukendi cite ses collègues d'organiser une cabale contre le gouverneur de province cité dans l'affaire de 3 millions non encore justifiée par l'autorité provinciale. Faux, rejette le vice-président de l'Assemblée provinciale indexée dans l'audio à la suite de ses ambitions au poste de gouverneur de province. S'exprimant dans une vidéo sur la chaîne Grand Kasaï Media TV, le député Jean-Paul Ntumba Mboma affirme qu'il s'agit de la mauvaise interprétation des textes. Selon lui, l'article 170 alinéa 2 du règlement d'ordre intérieur stipule que nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire, son regroupement ou parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts, ceux d'un parent ou d'un allié. En mettant en place cette commission, il paraît clairement, selon plusieurs sources, que des dispositions du règlement d'ordre intérieur n'avaient pas été prises en compte. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Place à cette information en provenance de la cellule de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa. En raison des perturbations observées à cause de la situation sécuritaire, le gouverneur Daniel Bumba a prolongé jusqu'au 28 février le délai de souscription de la déclaration de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs.
Actualité internationale.
4 jours après la collision aérienne à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui a coûté la vie à 67 personnes, 55 corps ont été repêchés du fleuve Potomac et identifiés, ont indiqué hier dimanche les autorités locales. Les services de secours doivent entamer ce lundi les opérations de levage de l'épave de l'avion.
L'invité.
La crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays préoccupe la majorité des Congolais, même ceux de la diaspora. Invité de Radio Kapi, le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, Charles Bamana, fustige ce qu'il qualifie d'agression imposée aux Congolais pour leur richesse du sol et du sous-sol. Il demande aux Congolais de se prendre en charge afin de gagner cette guerre. Charles Bamana s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Charles Bamana.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes un cadre politique congolais et vous vivez à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Quelle analyse faites-vous de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays?
Comme d'aucuns le sait, le Congo est agressé sur l'espace est. La province de Nord Kivu et Sud Kivu est attaquée par les troupes étrangères accompagnées par leur supplétif M23. Il y a une crise sécuritaire et crise humanitaire. Nous pensons que le Congo est en train de suivre ce qu'on appelle la lutte pour sa libération. Il faut que les Congolais s'y prennent les choses en main. Prendre les choses en main, c'est-à-dire quoi? Prendre conscience que la guerre qui nous est imposée, c'est pour votre identité, pour votre affirmation. Ce n'est pas la guerre pour le régime. C'est une guerre qui date depuis l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, qui était en coalition avec le Rwanda, avec l'Ouganda. À la fin, lui-même s'est réalisé que ces gens-là, ils avaient un agenda caché. Et aujourd'hui, nous avons M23 ou Fleuve Congo, qui sont dupés par la même réalité. Ils pensent qu'ils sont en train de faire la lutte de libération. Mais le Rwanda est en train de les utiliser pour d'autres fins. C'est ainsi que nous demandons à tous les Congolais que ça soit de gauche ou de droite, de l'opposition ou du pouvoir, de prendre conscience que nous devons nous unir pour bouter l'ennemi hors de notre territoire.
Si on vous demandait, M. Charles Bamana, de proposer un schéma de sortie de cette crise, que diriez-vous?
Il n'y a pas de solution. Un peuple qui veut la liberté doit se défendre. On ne gagne pas la paix avec les déclarations. On ne gagne pas la paix avec les discours. Moi, je demande aux Congolais de se prendre en charge et la communauté internationale va vous respecter. Se prendre en charge, c'est quoi? La guerre nous est imposée. Nous devons prendre conscience que nous devons nous défendre. Quand nous allons nous défendre et nous allons pousser l'ennemi hors de chez nous et nous allons nous mettre ensemble pour résoudre nos divergences. Pas si vous ne le faites pas et la communauté internationale ne fera rien.
Vous soutenez le paradigme latin qui dit, je cite, « Civis pacem parabellum », celui qui veut la paix prépare la guerre.
Connaissant que le Congo, c'est un géant géographique, avec tout ce que nous avons comme minerai, tout ce que Dieu nous a donné, on ne nous laissera jamais en paix. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. C'est ainsi que je demande au gouvernement de fermer la frontière. Aussi longtemps que la frontière est ouverte, c'est une peine perdue. Les gens là vont nous attaquer du côté nord. Quand vous partez du côté nord, ils vont partir maintenant du côté sud. C'est pourquoi moi je demande au gouvernement congolais de se réveiller, fermer la frontière et nous allons maintenant nous contenir ces gens-là à l'interne pour les chasser. Ne pas les faire, nous allons perdre beaucoup de temps et ça sera toujours des marches. On va marcher, la communauté internationale avec ses résolutions qui peinent à venir, ce n'est pas une solution. Prenez-vous en charge et mettez-vous en action.
Vous proposez la fermeture des frontières alors qu'il y a des Congolais qui vivent via le commerce transfrontalier. Vous ne pensez pas que c'est une façon de les jeter aussi en pâture?
Il n'y a jamais de rose sans épines. Je propose à nos amis, nos compatriotes qui vivent du commerce frontalier d'accepter des sacrifices. C'est pour un petit temps, mais ça sera notre survie. Moi, je prends l'exemple du Burundi. Le Burundi a fermé sa frontière. Et aujourd'hui, ils sont en mesure de contrôler le mouvement de rebelles rwandais sur leur sol. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? Ce n'est pas en fermant la frontière pendant un temps que les Congolais vont mourir. Nous acceptons des sacrifices pour une solution durable et une solution définitive.
Vous avez suivi, comme de nombreux autres Congolais, les actes de pillage et de vandalisme ayant émaillé les manifestations à Kinshasa. Comment réagissez-vous face à ces comportements?
Je suis de cœur avec nos compatriotes qui ont manifesté leur ras-le-bol. Mais je leur aussi conscientise, vous savez que depuis nous avons connu le premier pillage, jusqu'aujourd'hui le Congo ne s'est jamais remis. Ne faut pas entrer dans les jeux de l'ennemi, aller détruire les paix que nous avons. Il ne faut pas détruire les paix que nous avons encore.
Quel message vous pouvez lancer à tous les Congolais en général, puisque la tension liée à la guerre d'agression continue de monter?
Ce que je peux dire aux Congolais de s'unir, parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du régime. Cette guerre nous est imposée pour notre terre, dont nous devons nous défendre. Lumumba s'est battu, il nous a donné l'indépendance. Nous, aujourd'hui, les Kinois, les Louchois, les Kibousiens, les Gomatraciens, nous devons nous tous nous unir pour comprendre que le Congo est convoité par l'extérieur. Et, à l'occurrence, le Rwanda est en train d'être utilisé pour finaliser leur mission. Donc, nous devons être tous mobilisés pour se prendre en charge. Et après, nous allons résoudre nos problèmes internes.
Monsieur Charles Bamana, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Au nom de Jude Bilanda, Jacques-Yves Molima et de Polydor Basunga, je vous dis merci de l'avoir suivi.